Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, faut-il avoir Bac plus 10 pour s'inscrire sur Parcoursup? Il n'y avait pas grand monde en 2017 pour assister aux obsèques d'APB. APB pour admission post-bac, système d'orientation des lycéens de terminale vers le supérieur, devenu incapable de gérer le surplus de demandes autrement que par le tirage au sort. En janvier 2018, Parcoursup lui a succédé, non sans quelques difficultés liées notamment à l'absence de hiérarchisation des vœux formulés par les élèves. La procédure de sélection n'en a été que plus longue, faisant passer à nombre d'entre eux un été particulièrement stressant. Nous voici désormais dans la saison 2 de Parcoursup. 680 000 lycéens sont inscrits sur la plateforme. Ils ont jusqu'à mercredi soir pour valider leur dossier de candidature, lequel, c'est promis, sera traité beaucoup plus rapidement que l'an dernier pour éviter de trop longues périodes d'attente. Pour autant, ce système est-il désormais efficient? Dans des décisions rendues fin janvier, le défenseur des droits recommandait plus de transparence, de mobilité et de mixité dans le fonctionnement de la plateforme. Alors, faut-il avoir Bac plus 10 pour s'inscrire sur Parcoursup? Question évidemment provocatrice que nous allons poser ce soir à quatre invités, à commencer par vous. Jérôme Teilhard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le responsable de Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur. Vous êtes conseiller auprès de la ministre Dominique Vidal. Pour discuter avec vous, Sylvie Amissi, bonsoir.
Bonsoir.
Présidente de l'APSIEN, Association des psychologues et de psychologie dans l'éducation nationale. Vous êtes en poste au lycée Voile-l'Homme.
C'est ça.
À Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis.
Et au CIO d'Aulnay.
Vous êtes conseillère d'orientation.
Je suis conseillère d'orientation psychologue.
Inès Betayeb, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure d'anglais, vous exercez au lycée public Simone de Beauvoir à Garges-lès-Gonesse. Mmh. Garges-lès-Gonesse qui se trouve dans le Val d'Oise et vous êtes professeure principale d'une classe de terminale. Puisque oui. Ce sont les professeurs principales qui sont concernés, on va dire, au premier chef par Parcoursup. Et c'est aussi le cas de notre quatrième invitée qui, elle, se trouve au téléphone depuis la Bretagne. Véronique Damour, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes professeur d'histoire-géographie. Vous enseignez au lycée privé Saint-Joseph à Bruse. C'est dans le département de l'Ille et Vilaine. Alors, je
voilà,
précise.
Bru, oui.
Bru, on dit?
Oui, ça se dit Bru, effectivement.
Ah, ben, j'ai prononcé le Z, pardonnez-moi. Je précise que nous avions consacré une émission à Parcoursup en septembre dernier. On l'avait fait notamment avec des organisations de lycéens et d'étudiants. Ce soir, on a un peu privilégié les enseignants pour en discuter. Mais c'est à Jérôme Teilhard que je voudrais poser la première question. Qu'est-ce qui se passe déjà, on va parler du calendrier, mercredi soir pour les lycéens de terminale?
Alors, pour l'ensemble des candidats, d'ailleurs de Parcoursup, puisqu'on a aussi bien des lycéens que des étudiants en réorientation, c'est la période limite pour finaliser son dossier et confirmer ses vœux. On rappelle qu'il y a 10 vœux au maximum pour l'ensemble des candidats. Ils ont formulé des vœux jusqu'au 14 mars, et en fait, finalement, entre le 14 mars et le 3 avril, ils complètent leur dossier. C'est faire son projet de formation motivé. C'est fournir, le cas échéant, des pièces qui ont pu être demandées par telle ou telle formation qu'ils ont, pour lesquelles ils souhaitent accéder l'an prochain. Donc, je crois que c'est une étape importante. C'est une étape aussi dans laquelle les lycées font remonter ce qu'on appelle les fiches à venir sur Parcoursup, c'est-à-dire l'ensemble, l'agrégation des appréciations, des notes, appréciations portées par les professeurs principaux, et on en a ce soir, et puis appréciation aussi du proviseur sur la capacité à réussir de l'élève par vœu. Ça fait partie de ces éléments qui sont apportés par Parcoursup pour donner aussi la vision de ce que sont les équipes éducatives sur les vœux qui sont formulés par les élèves.
Donc il reste quelques heures pour valider ces vœux qui ont été formulés déjà depuis quelques semaines. Inès Betayeb, est-ce que vous savez si tous vos élèves sont fin prêts ou s'il y a encore quelques retardataires dans vos classes?
Alors je sais qu'il y a des retardataires, enfin il y en avait vendredi après-midi lors de notre dernière heure de préparation. Il y avait des éléments qui n'étaient pas remontés, qui doivent normalement basculer du bulletin vers Parcoursup et qui n'étaient pas encore passés sur Parcoursup. Donc il y avait beaucoup de dossiers qui étaient incomplets. Donc ça, il y a des problèmes en interne. Et puis ensuite, il y a le problème des élèves qui n'avaient pas, en fait, qui n'avaient pas fait, vous savez, le truc où ils expliquent pourquoi ils sont motivés pour faire telle et telle formation. Et donc, sur la plupart des élèves que j'ai aidés, il y avait des éléments rouges, dossiers non complétés, etc. Donc je ne sais pas, alors qu'il est, si mes élèves sont prêts.
Est-ce que vos élèves sont davantage prêts, Véronique Damour?
Oui, un petit peu plus. Enfin, je ne sais pas si en quantité c'est beaucoup, beaucoup plus, mais il est vrai que les derniers petits éléments que l'on avait en fin de semaine butaient sur la non-remontée de quelques notes de sciences au niveau de la classe de première, mais c'est quelque chose de tout à fait mineur. Par ailleurs, la remontée des notes s'est bien faite. Et il faut préciser que les élèves en interne peuvent eux-mêmes avoir la main pour modifier ces données qui pourraient être éventuellement fausses. Concernant les lettres de motivation et de projet de formation, ils se sont tous bien inscrits dans la procédure. Ils ont même pris le soin de faire corriger par quelques professeurs les lettres de motivation. La seule chose qui m'inquiète là ce soir, c'est que en les ayant quittés pendant la journée et en faisant le point avec la secrétaire de notre établissement, beaucoup d'entre eux n'avaient pas confirmé effectivement leurs vœux.
Alors sur ces inquiétudes, j'imagine que vous en êtes aussi, vous, en tant que conseillère d'orientation psychologue, Sylvie Amici, le réceptacle. Et à travers le poste que vous exercez dans votre lycée, mais j'imagine que vous discutez aussi avec vos collègues.
Alors, donc à plusieurs niveaux, effectivement, dans les établissements scolaires. Alors, des discussions qui sont au centre avec les profs principaux des classes et qui, alors je ne sais pas ce qu'on dira sur Parcoursup, mais qui trouvent quand même que c'est une charge de travail, c'est une charge mentale. C'est aussi beaucoup d'engagement auprès des jeunes qu'ils apprécient, hein, qu'ils prennent en charge, mais qui du coup les interrogent beaucoup par rapport au fait, est-ce que les jeunes vont vraiment avoir ce qu'ils demandent, est-ce que ça va fonctionner pour eux. C'est-à-dire que plus ils sont proches des élèves pour les accompagner dans leurs vœux, plus ils, comment dire, ça crée pour eux du stress en tant qu'enseignants, un peu comme un parent, d'essayer que ça se passe au mieux pour chaque enfant qu'ils auront accompagné dans leur classe.
Donc, mais est-ce ces inquiétudes, Sylvie Amici, oui, ce ne sont pas des inquiétudes qui naissent chaque année à peu près à la même période? Ou bien est-ce que vous diriez qu'avec ce processus de sélection, ça a un peu changé? Alors peut-être que ça a mis le stress plus tôt ou
très clairement,
de manière différente.
Avec APB, il n'y avait pas ce phénomène de tension et de stress. Pas à ce point-là. Je pense que l'année dernière, il y a eu vraiment... par le fait d'amener une nouvelle procédure d'un seul coup, qui était très différente et non pas quelque chose qui était progressif, avec en plus une promesse du ministère de M. Blanquer qui était d'installer un système plus simple, plus transparent, plus juste, je crois que je le cite presque mot à mot, des enseignants, des familles, mes collègues et donc des jeunes qui se sont retrouvés dans un système qui finalement ne leur paraissait pas du tout simple, transparent et juste.
Alors ça, on peut se dire que c'est normal l'année de la mise en place. Quand il y a un changement qui est important, il faut toujours un petit temps d'adaptation. Quand on est dans la saison 2 de Parcoursup, normalement, les choses sont un petit peu plus calées. Qu'est-ce que vous répondez, Jérôme Teilhard, quand on vous dit que c'est un système qui génère quand même du stress et peut-être davantage que n'en généraient les précédents systèmes?
Moi, je trouve qu'il faut revenir. Le sujet de l'orientation est un sujet de préoccupation important chez les familles, etc. Et c'est là qu'est au cœur souvent, nous, quand on interroge ou même quand on lit sur les réseaux sociaux, c'est plus qu'est-ce que je vais faire, quel choix je vais faire. Et c'est ça finalement qu'interroge le plus. La plateforme, elle est le réceptacle finalement d'une forme d'angoisse qui est liée à son projet, à la construction de son projet. Et c'est précisément pour ça qu'on a aussi souhaité associer à la plateforme Parcoursup une démarche qui est d'accompagnement à l'orientation. C'est un deuxième professeur par classe, c'est à l'intérieur de la réforme du lycée des heures qui vont être dédiées pour la question de l'orientation, de manière à ce que finalement le travail sur Parcoursup, on l'engage pas le 22 janvier au moment de l'ouverture sur la plateforme, mais il puisse être anticipé, que la logique de construction de projet, elle puisse se faire. Et puis, il y a parfois, c'est aussi plus simple, il faut le dire quand même. Cette année, sur Parcoursup, sont rentrés les instituts de soins, formation en soins infirmiers, les écoles d'infirmières. Auparavant, c'était des concours payants. Chaque concours était isolé, il fallait se renseigner. Et à chaque fois, on refaisait un dossier. À partir de cette année, sur Parcoursup, c'est qu'un seul dossier, c'est un examen sur dossier, c'est gratuit. Et on y trouve tout. Et je pense que
c'est
ça
pas le cas de toutes les formations. Il y a aussi des formations qui se retrouvent sur Parcoursup, qui sont payantes encore, notamment pour les filières professionnelles.
Il y a des formations qui peuvent être sur lesquelles il y a des entretiens et des concours et où il y a une contribution qui est faite. Mais je crois qu'il faut dire que l'objectif de la plateforme, en essayant d'avoir le maximum de formations qui sont disponibles sur la plateforme, l'an prochain, ce sera les Sciences Po, ce sera Paris Dauphine aussi. Donc beaucoup de formations, toutes les formations paramédicales. On simplifie aussi la vie des candidats parce qu'ils ne font qu'un seul dossier et pas des dossiers qu'ils doivent à chaque fois refaire.
Véronique Damour, en tant que professeure principale, à quel moment de l'année vous avez été amenée à commencer à discuter avec vos élèves de leur orientation et de leur parcours sur Parcoursup?
Bah écoutez, dès la deuxième semaine de rentrée, donc très très tôt effectivement dans l'année, non seulement au cours de d'heures de vie dites scolaires pour les informer sur les grandes formations de l'enseignement supérieur, mais également par des rendez-vous un petit peu plus personnalisés, soit avec l'élève lui-même, soit avec les parents et l'élève. Faut pas oublier que c'est une relation qui se fait à trois là, hein. C'est l'équipe pédagogique, c'est l'élève et c'est ses parents. Bon, je sais pas si ça génère beaucoup de stress, probablement. Est-ce que ça génère plus de stress qu'APB ? J'ai envie de dire non. Mais bon, évidemment, c'est le point de vue du professeur principal qui trouve dans Parcoursup une plateforme très, très transparente. Non seulement quant aux attendus des formations, là-dessus, et l'élève et les familles sont très bien renseignés, mais à un deuxième niveau, en fin d'année, lorsque les résultats sont redonnés après le positionnement des vœux, on peut voir la position sur la liste d'attente de chaque élève et on peut les aider à se prédéterminer par rapport à la réponse définitive. Je suis un véritable dinosaure, moi. Hein. Je suis en classe de terminale depuis 1989. Donc, non seulement j'ai vu la version papier, j'ai vu APB et je vois Parcoursup. Et entre APB et Parcoursup, je trouve que Parcoursup est extrêmement transparent et très compétent.
Est-ce que vous partagez ce point de vue, Inès Bétaïeb ?
Non, je ne partage pas ce point de vue, mais j'ai sans doute une autre expérience de Parcoursup. Par rapport au stress qui est généré chez les élèves, nous, on a des élèves qui sont extrêmement stressés, et pas seulement parce qu'ils doivent faire ce choix qui est très important dans leur vie, mais parce que ils ont l'impression de ne pas maîtriser la plateforme, parce que nous aussi en tant que professeurs principaux, on a un peu du mal à s'y retrouver, et puis parce que
vous avez
que...
du mal sur quoi, par exemple?
Par exemple, on a du mal à savoir si la lettre de motivation qu'on leur conseille d'écrire est la bonne. On a du mal à savoir quel choix ils doivent favoriser, qu'est-ce qu'ils doivent enlever. Il y a toutes sortes de questions. Par exemple, bon, moi, je travaille dans un lycée de banlieue, qui est un lycée qui a, on peut le dire, plutôt une mauvaise réputation. Les élèves, malheureusement, en ont une grande conscience. Donc, ils ont très, très peur d'être dévalorisé à cause de ça. Et par exemple, on a du mal à savoir à quel point on doit les écouter quand ils disent qu'il faut pas qu'ils mettent trop de prépas très prestigieuses, trop de facultés parisiennes, puisque donc j'entends qu'on disait que c'est Parcoursup est une plateforme transparente. Cela dit, le problème en fait c'est que les élèves ont accès aux attendus. Mais ensuite, donc ça c'est très bien.
Voilà, les attendus, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qu'on attend de l'élève pour faire telle formation. Donc il faut plutôt avoir telle compétence, voilà. C'est ça les attendus. Hein.
Voilà, mais le problème c'est qu'on ne sait pas ensuite comment décident les commissions qui sont organisées en interne par les universités, etc. Et nous, c'est un petit peu par rapport à ça qu'on est un peu perdus, parce qu'on sait très bien qu'il y a plus d'élèves qui répondent aux attendus que d'élèves qui seront ensuite pris dans les différentes formations qui sont proposées. Donc ça génère du stress parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on doit leur conseiller de faire, s'ils ont raison de se censurer. Et ça, c'est une question qui est très difficile, notamment pour moi qui suis professeure de lycée anciennement ZEP, voilà, avec des problématiques qui sont particulières.
Et sur la façon dont c'est géré justement après, c'est vrai que ça faisait partie, en tout cas des constats et des recommandations du Défenseur des droits en janvier, que les candidats disposent de toutes les informations relatives aux modalités de traitement de leur candidature. Sylvia Missy.
Ce que je voulais dire, c'est que ce qu'il faut être conscient aussi, c'est dans quel lieu ça se passe, quel est l'espace qu'ont les jeunes pour faire leurs vœux. Donc actuellement, deux espaces sont possibles. Soit l'espace de la classe, de l'accompagnement personnalisé, et je pense qu'en tant que professeur principal, la collègue je pense sera d'accord avec moi, tous les enfants ne sont pas forcément à l'aise dans l'espace classe pour faire des vœux, alors qu'il y a le regard peut-être de l'enseignant dans la matière où ils sont pas bons, il y a le regard des camarades, voilà, c'est-à-dire que faire ça dans l'établissement, c'est pas forcément simple. Faire ça à la maison...
Il n'y a pas l'espace avec le conseil d'orientation, pour le coup
Alors, on va y venir. En tout cas, l'espace physique, il faut bien se connecter à un ordinateur. Il faut bien avoir du temps. Les enfants, les lycéens sont en cours. Donc la question qui se pose aussi, c'est quel est l'espace physique et temporel qui est donné aux jeunes pour faire ça. Donc certains établissements aménagent ça, mais beaucoup se retrouvent sur le fait que c'est à la maison avec les parents et pas forcément non plus un accompagnement, voire même pour certains pas d'équipement technique pour se connecter, et ils font ça sur leur smartphone. Donc ça génère quand même des inégalités d'accès qui vont avoir des effets. Alors nous, on essaye en tant que psychologue de l'éducation nationale, dans les lieux que sont les CIO, tant qu'il en reste et tant que le ministre ne les supprime pas ou n'en conserve qu'un par département, d'être en proximité et de proposer des ateliers. Et on voit que beaucoup de jeunes, ces ateliers qu'on fait en nocturne ou qu'on a fait pendant les congés scolaires, leur permettent d'avoir un endroit où ils sont posés, où ils sont au calme, où c'est ni un enseignant, ni les parents, et où, parfois, ça désinhibe beaucoup d'être dans un, comme ça, un espèce de tiers-lieu.
Alors, on en vient justement au titre de l'émission qu'on a choisi ce soir. Faut-il avoir Bac plus 10 pour s'inscrire sur Parcoursup? C'était évidemment un titre ironique, mais est-ce que ça ne demande pas quand même des compétences particulières que de savoir s'orienter, que de savoir faire les bonnes décisions, prendre les bonnes décisions, Jérôme Théillard, quand on est confronté ce qui va être l'avenir de son enfant ou son propre avenir quand on est élève, à savoir quelle filière de l'enseignement supérieur choisir?
Ça reste un choix qui est évidemment stressant, angoissant pour les parents, pour la famille, hein. Ça, je le comprends bien. Ce qu'on a essayé de faire avec Parcoursup, c'est d'améliorer l'information qu'on est en capacité de donner pour réduire les inégalités d'accès à l'information. Parce que on peut revenir sur le débat sur les attendus, ils ont toujours existé. Par contre, ils n'ont jamais été affichés. Et là, Parcoursup amène. Pour répondre à madame, depuis cette année...
Donc à Inès Métayeb, je dis juste pour les auditeurs.
Les établissements à renseigner les critères généraux d'appréciation. Précisément pour répondre à cette interrogation, quels sont les éléments sur lesquels mon dossier va être apprécié.
Sans doute que ça ne répond pas. C'est ça ? Vous parlez des attendus, là, qui sont donnés.
Non, je ne parle pas des attendus. Il y a une autre rubrique sur Parcoursup avec les critères généraux d'examen. Et c'est 14 500 formations qui s'engagent dans cette démarche-là de transparence. Sans doute, il y aura encore d'autres étapes. On amène des informations cette année, le rang dans la liste d'attente. Ça a été évoqué par notre interlocutrice. On amène aussi le rang du dernier appelé. Quelle est la place de la dernière personne qui a eu une proposition? Je pense que ce sont des éléments, chaque année, on va progresser aussi pour améliorer l'information et pour permettre, parce que c'est ça qui est au cœur du système Parcoursup, c'est considérer que le lycéen est celui qui est responsable, c'est toujours lui qui a le dernier mot, et c'est une exigence pour nous tous, d'ailleurs collectivement, que d'avoir, de l'accompagner pour permettre qu'il soit en capacité de vraiment prendre les bonnes décisions. On améliore beaucoup, il y a une carte interactive sur Parcoursup, c'est une nouveauté cette année, et on aura d'autres nouveautés à créer, précisément pour toujours améliorer l'information que l'on donne aux candidats.
Je voudrais revenir sur un aspect qu'évoquait Inès Bétayeb, qui est la question de la stratégie à adopter. Alors, il n'y a pas de parents autour de cette table ce soir, enfin, s'il y a peut-être des parents, mais en tout cas, vous n'êtes pas là en tant que parent d'élève. Je vais endosser ce rôle, et ça tombe bien, parce que j'ai mon fils, justement, qui s'inscrit cette année sur Parcoursup. Et c'est vrai qu'on est quand même confronté à des choix dont on ne sait pas s'ils vont être les bons. C'est-à-dire, est-ce qu'on privilégie les filières ou la filière dans laquelle, alors en l'occurrence, mon fils va être le plus, comment dire, volontaire pour le faire, celle qui lui plaît le plus, mais avec le risque qu'il n'ait rien au bout du compte, ou bien est-ce qu'il faut aussi mettre des filières qui l'intéressent peut-être moins, en essayant de sécuriser les choses, mais en se disant peut-être qu'il finalement on va l'envoyer dans ces filières qui l'intéressent moins, et celles qui l'intéressent vraiment, il n'y aura pas droit.
Moi je crois que la motivation, on l'a placée au cœur de Parcoursup, parce que le meilleur moteur pour la réussite de ses études, parce que, je le redire, ce qu'on cherche, c'est pas de réussir Parcoursup, c'est de réussir ses études. Parcoursup n'est qu'une étape pour l'accès aux études. Donc la motivation est un élément important. Peut-être pour répondre aussi à la question, ce qu'on essaye de faire précisément, parce qu'il n'y a pas de vœux hiérarchisés sur Parcoursup, c'est d'encourager aussi la lutte contre l'autocensure. C'est-à-dire, il ne faut pas s'autocensurer, parce que par ailleurs, nous cherchons à valoriser des lycéens qui sont boursiers, donc d'origine modeste, pour, y compris dans les filières les plus sélectives à Paris, les classes préparatoires par exemple, leur donner une forme de priorité. Je pense que c'est un élément nouveau qui va progressivement être aussi dans le discours des enseignants pour accompagner des élèves.
Inès Bétayeb.
Oui. Alors je voulais juste revenir sur une chose que vous avez évoquée. C'est donc, je pense que j'ai pas bien compris quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a...
Vous parlez à Jérôme Théillard.
Oui, c'est ça. Il y a donc des attendus qui sont présentés aux élèves. Ensuite, il y a des délibérations par des jurys dans les formations. Et donc là, par contre, il y a le secret des délibérations des jurys. Et donc, on ne peut pas savoir exactement au moment des délibérations ce sur quoi les élèves sont choisis. Alors, je sais qu'ensuite, ils peuvent poser une question après coup, après avoir été refusés dans une formation ou une autre. Ils peuvent demander des explications. J'ai vu ça sur Parcoursup. Mais donc, on ne sait pas tout sur la manière dont les élèves sont quand même sélectionnés.
Alors, réponse de Jérôme Théillard et ensuite...
Au-delà des attendus, vous avez une rubrique qui a été mise en place cette année, qui sont les critères généraux d'examen et qui vous donne des éléments, critères généraux d'examen, dans lesquels les commissions, à partir desquels les commissions vont travailler. C'est un peu leur feuille de route, en quelque sorte. Et puis, vous avez l'information, effectivement, ex post, qui est celle qui permet, effectivement, de pouvoir demander, c'est un droit garanti par la loi, quels ont été les motifs, quelles ont été les raisons qui ont justifié la décision qui est prise à mon endroit. Mais je reprends aussi, nous affichons aujourd'hui sur Parcoursup quelles étaient les capacités d'accueil de l'année précédente, quelle était la tension sur l'année précédente, cette taux de sélectivité, l'ensemble, quelles étaient les filières de baccalauréat qui étaient présentes dans cette formation. Je crois que ce sont des éléments qui réunis permettent aussi aux candidats de se faire une idée, peut-être d'être accompagnés pour interpréter des données. Et nous travaillons avec les lycéens aussi pour toujours essayer de leur faire comprendre le maximum d'éléments qui permettent de juger pleinement est-ce que je m'engage ou est-ce que je ne m'engage pas à faire un vœu. Sachant qu'avec 10 vœux, on a aussi la possibilité de diversifier ses choix.
Comment est-ce que vous conseillez justement les élèves, Sylvie, à l'ICI? Est-ce que vous leur conseillez plutôt de sécuriser leur parcours dans le supérieur en mettant un maximum de filières avec l'idée que bah, il y en aura bien une qui finira par payer? Ou bien est-ce que l'idée, c'est vraiment de leur dire inscrivez-vous là où vous avez vraiment envie d'être, quitte à peut-être prendre le risque qu'il n'y ait rien au bout?
Alors, pour répondre à votre question, rien au bout, il y a toujours quelque chose au bout. L'idée que je pense qu'il faut privilégier, c'est la cohérence des choix qui sont faits par rapport au domaine qui nous intéresse ou au milieu professionnel qui nous intéresse.
Cohérence, ça veut dire par exemple un élève qui viendrait vous voir de terminale, qui dirait ben, « moi j'hésite entre le droit, l'histoire géo et la psycho par exemple ». Là,
C'est du droit, de la psycho, mais avec quelle idée, quel type d'action où veux-tu agir dans le monde par rapport à ces différentes disciplines? Et du coup, essayer d'y voir plus clair par rapport à la cohérence dans son engagement, dans ses objectifs. Parce que, à la fois, ça peut être des choix qui mènent finalement au même type d'activité professionnelle, mais ça peut mener vers des choses très différentes.
Oui, mais moi, je veux vous répondre, madame la conseillère d'orientation et psychologue. Je ne sais pas vraiment, justement, j'hésite. J'ai pas vraiment de choix défini, donc aujourd'hui,
Alors, si c'est comme ça, de toute façon, les vœux sont déjà faits. On peut pas les changer. Donc, si on est comme ça à l'arrache et que ça a été fait un peu avec comme ça, faire le maximum de vœux et par contre se donner tout le temps qu'il y a jusqu'au mois de mai pour approfondir et voir ce qu'on fera quand on aura les réponses. Mais je voudrais revenir quand même sur un détail parce que monsieur Teilhard, et je suis sûre que c'est pas une erreur de sa part, mais depuis tout à l'heure il parle de 10 vœux, on est bien d'accord que c'est pas 10 vœux, c'est 10 vœux avec des sous-vœux jusqu'à 20 sous-vœux. Non mais je crois qu'on est dans une chaîne de grande écoute, c'est important. Mais non, parce que c'est ce genre de choses qui fait repaniquer les gens. Parce qu'ils ont, ils sont,
donc,
ils
étaient. 10 vœux, c'est-à-dire 10 filières.
Ah, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça.
J'ai passé un petit peu de temps dessus.
C'est plus compliqué que ça parce que, par exemple, les licences comptent toutes pour un vœu, même si c'est la même spécialité. Donc, je voulais revenir là-dessus. Et par rapport à. Au moment où on peut être un peu dans un différent par rapport à quelqu'un comme monsieur Teilhard, par rapport à ma profession, c'est que effectivement il y a des critères objectifs, on donne des chiffres, on dit le dernier qui a été pris ou pas, etc. Le problème de ce type d'informations, dont je ne conteste pas la pertinence, hein, mais c'est que ces informations, tout le monde n'est pas égal devant le fait que ces informations vont avoir un poids plus ou moins fort dans la prise de décision. Certains élèves, quand ils voient qu'ils sont en fait à l'avant-dernière place d'être pris, ils vont renoncer. D'autres, parce que les parents sont là, parce qu'ils vont dire « mais si, mon fils, oh si, ma fille, tu continues, t'insistes ». Voire même, ils vont aller à la fac ou ils vont aller à l'école et puis ils vont insister même physiquement. Voilà. C'est-à-dire que ces critères objectifs, dont je comprends que vous y teniez de votre place, de ma place, je dis attention, ces critères objectifs sont facteurs, ne pèsent pas de la même façon sur tous les individus, et notamment sur les inégalités.
Alors, je vais laisser répondre Jérôme Teilhard et Inès Bétaillet, mais ça fait un petit moment qu'on n'est pas retourné du côté de la Bretagne avec Véronique D'Amour.
Bretagne, je vous écoute.
Voilà, et ben, je vais vous laisser peut-être réagir à ce qui se dit, et aussi peut-être en apportant une part de votre expérience. Je crois que vous avez rencontré, notamment dans le cadre justement de ce travail sur l'orientation de vos élèves, des collègues du supérieur. Est-ce que ça vous a permis d'en savoir davantage justement sur ce qu'il fallait faire dans le cadre de Parcoursup?
Oui, c'est ce que je m'apprêtais à dire et à partager justement. C'est parce que justement votre discussion jusque-là consiste à voir effectivement l'élève, son vœu et puis les résultats au mois de mai. Mais il ne faut pas oublier qu'en amont, effectivement, nous faisons tous de l'orientation et qu'à ce titre-là, les professeurs principaux, autant que les autres collègues d'ailleurs, reçoivent une indemnité de suivi d'orientation. Et donc, quand j'entendais madame qui disait que, voilà, les lieux, c'est difficile, j'ai peur de montrer mon vœu, j'ai peur de partager avec les autres, Mais on peut très bien individualiser tout ça dans un établissement. Recevoir un élève individuellement, lui laisser un appareil informatique, la coupure avec l'outil informatique n'est pas si grande que cela. Et nous, ce dont on a pu effectivement bénéficier dans l'enseignement privé d'Ille-et-Vilaine, c'était la mise en place d'une journée pédagogique en date du 23 novembre, où nous avons pu, nous, tous les enseignants du réseau, rencontrer nos collègues de l'enseignement supérieur, BTS, IUT, facultés privées, facultés publiques, vraiment dans des domaines divers et variés, littéraires, économiques, scientifiques. Et ils nous ont repositionné, autant les professeurs que les étudiants, des choses très très simples. Par exemple, la lettre de motivation. Tous les établissements supérieurs d'accueil savent très bien que tous les projets de formation et toutes les lettres de motivation qui vont être rédigées par nos élèves de terminale sont un petit peu préfaites, sont un petit peu prémouturées parce que le prof passe derrière pour corriger, parce que papa et maman passent derrière pour corriger.
Et donc parce que parfois des coachs même sont payés pour corriger, oui, pour rédiger des lettres, hein, j'ai vu ça.
C'est la raison pour laquelle moi je dis à mes élèves, maintenant je me désinvestis de cette correction, je leur dis, écoutez, commencez par tel type de formulation, mais mettez des choses originales, qui n'a pas trait uniquement avec vos compétences scolaires, mais qui peut aussi avoir trait avec une expérience professionnelle, semi-professionnelle, ou bien des activités parascolaires. C'est l'originalité qui va payer. Deuxièmement, je crois qu'il faut raison garder, on intègre une formation fortement sélective ou fortement contingentée à partir du moment où on a des résultats pour le faire. Quand un élève de terminale vient me voir, ben voilà madame, j'ai pratiquement 10 de moyenne et je vais intégrer une classe préparatoire d'enseignement supérieur, je lui réponds très concrètement que la classe préparatoire n'est pas envisageable, que ce le soit en termes de résultats ou même moralement pour lui. Comme le disait une de mes collègues tout à l'heure, il faut avoir de la cohérence. Cohérence dans la demande, cohérence dans les résultats acquis. Et ça, c'est un conseil que l'on va donner, avec lesquels on va accompagner, suivre nos élèves. Mais cette rencontre du 23 novembre a été vraiment très importante parce qu'on a eu plein de critères très très concrets qui ont pu valider des modes d'intervention de notre part auprès de chacun de nos élèves après.
Alors peut-être que tous les établissements ne sont pas logés tout à fait à la même enseigne. Inès Betayeb, je rappelle, donc vous êtes professeur d'anglais dans un lycée à Garges-lès-Gonesse dans le Val-d'Oise. Vous vouliez réagir ?
Oui, je voulais réagir parce que c'est intéressant d'entendre une collègue qui n'a pas du tout la même expérience que moi de Parcoursup. Moi, ce que j'ai constaté là, dans les heures qu'on a, donc on a les heures de PP, hein, qui sont, on peut demander à avoir
PP,
des heures.
PP, ça veut dire quoi ?
Prof principal, pardon. Voilà, donc effectivement, ce qui est bien, c'est que cette année, il y a eu une amélioration. On peut être deux professeurs principaux sur une classe, c'est un point qui est positif. Cela dit, cette année, on était deux professeurs principaux. Les élèves sont tout à fait seuls, moi, là où j'enseigne, les élèves sont tout à fait seuls face à cette plateforme qui est extrêmement difficile à manier. Ils rédigent leurs lettres à la dernière minute parce qu'un jeune de 17 ans n'anticipe pas. C'est une donnée qu'on ne peut pas changer. Et donc, moi, là, actuellement, j'ai des élèves qui rédigent leurs lettres tout seuls et qui sont pleines de fautes d'orthographe. Ils sont très, très mal à l'aise parce qu'ils maîtrisent très mal le français. Et donc, en fait, le jeune, c'est là qu'on voit qu'en fait, Parcoursup, c'est un outil qui est extrêmement discriminant. Puisque des jeunes qui sont seuls et qui n'ont personne à la maison pour les aider à tout simplement rédiger les choses, comprendre comment ça fonctionne, ils n'osent pas forcément appeler. Il y a un numéro vert, moi j'ai appelé pour des élèves parce qu'ils n'osent pas appeler, parce qu'en fait ils ont honte de parler au téléphone parce qu'ils s'expriment pas très bien. En fait, il y a toutes sortes de choses comme ça qui font que les élèves s'inhibent. Et par exemple, quand on voit qu'il y a souvent un critère de notes obtenues au bac de français aussi, ça c'est un des éléments qui fait que des élèves de banlieue pauvres où on maîtrise mal le français sont complètement inhibés. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué.
Sur la question des lettres de motivation, j'évoquais ce recours parfois à certaines entreprises privées, à des coachs. Il y avait un article assez intéressant, c'était l'an dernier dans le Parisien, où ils avaient le journal Le Parisien. On a testé les lettres de motivation payantes. Alors, ça coûtait 39 euros par lettre. Et il y avait notamment un exemple de lettre de motivation pour la filière STAPS qui était proposée et qui disait notamment ceci. Enfin, c'était un extrait de la lettre d'une élève, d'une lycéenne qui voulait intégrer cette filière sport. Je suis convaincu que ma pratique du sport m'a permis de développer une grande concentration et un esprit de conquête qui m'a beaucoup aidé dans mes études. Bon, des fois, l'excès de rédaction n'est pas forcément payant. J'imagine, Jérôme Teilhard, je rappelle que vous êtes le monsieur Parcoursup au ministère de l'enseignement supérieur. Cette lettre de motivation, elle sert à quoi? Enfin, est-ce qu'elle a vraiment un rôle déterminant dans l'orientation?
Oui, je voudrais dédramatiser là, parce que cette plateforme n'est pas si compliquée que ça. J'ai plus d'un million de candidats qui ont fait des vœux. Quand on est à un million de candidats, ça veut dire que le système tourne et qu'il sait accueillir les candidats et qu'on sait les guider. Je rappelle que chaque candidat...
Oui, mais on prend des CV sur les lettres de motivation. Hein. Quand je dis on,
oui,
je m'inclus dedans.
Je pense qu'il faut se rappeler. Nous avons fait un vrai choix, qui est un choix de mettre fin à la hiérarchisation en amont des vœux, parce que la hiérarchisation en amont, ce sont des stratégies, ce sont des inhibitions complètes. C'est-à-dire que là, on préfère prendre la formation où on pense qu'on va avoir une place plutôt que la formation qui nous plaît. C'est pas ça l'orientation, c'est pas ça la réussite. La réussite, elle va se juger par rapport à sa motivation, à l'envie d'aller finalement s'investir. Et c'est ce sur quoi on veut travailler. Et moi, je remercie vraiment tous les profs principaux qui travaillent auprès des élèves, parce que je mesure bien la difficulté dans des contextes parfois très différents. Je pense que, je ne sais pas si vous étiez déjà professeur principal l'an dernier, mais je pense qu'il y a une expérience qui s'acquiert, et je pense que notre interlocutrice en Ille-et-Vilaine le voit bien, cette expérience s'acquiert dans la manière dont on appréhende le travail avec les élèves, et dans la manière dont, peut-être dès la première, on va pouvoir leur fixer un objectif en disant, dans ces heures de l'orientation qui sont prévues dans la réforme du lycée, nous allons travailler ensemble, finalement, pour dédramatiser et faire en sorte qu'on ne se pose pas la question du projet de formation motivée le 13 mars ou le 1er avril, là, ensemble à 19h, mais qu'on l'ait anticipé bien en amont. Je crois que c'est une question d'appropriation, mais ce qui compte, c'est sur Parcoursup, c'est la motivation qui compte. La
manière justement, il y a donc des lettres de motivation, vous m'avez pas répondu sur le rôle qu'elles jouent, ces lettres.
Le rôle, c'est pouvoir permettre à un élève d'exprimer son envie, d'exprimer son projet, finalement, à travers 1500 caractères, et puis donner aussi aux formations de l'enseignement supérieur à voir. Moi, je peux vous donner beaucoup d'exemples.
Mais là, si je suis un parent qui a la possibilité d'aider son enfant pour écrire sa lettre, je suis quand même avantagé par rapport à quelqu'un qui aurait passé tête,
là, non ? ce qui compte, c'est, et les professeurs de l'enseignement supérieur, madame l'a très bien dit, c'est qu'ils font la part des choses entre une lettre qui paraît trop bien polissée et puis une autre. Je pense que ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'elle a de vérité? Qu'est-ce qu'elle a d'éléments qui sont significatifs et qui traduisent une motivation? Moi, je vois, je vais vous donner un exemple, très peu de temps, ce sont aussi des professeurs dans des formations très sélectives. Je pense à Paris 1 en sciences politiques, formations les plus sélectives de France. Et qu'est-ce qu'on voit? Des jeunes qui venaient de bac professionnel et qui ont été retenus dans ces formations parce qu'il y avait une motivation qui était exprimée, il y avait un projet, il y avait quelque chose. Donc, moi, j'invite les candidats à s'exprimer librement. C'est ça, l'objectif. Ils ont des professeurs pour les accompagner. On pourra toujours faire mieux sur l'accompagnement. C'est l'objectif du travail tout au long des années qui viennent. Mais je crois que c'est important que l'on mette la motivation et l'envie personnelle au cœur du choix des candidats.
C'est un exercice d'ailleurs que vous considérez comme intéressant, Sylvia Missy, le fait de rédiger une lettre de motivation.
Ah oui, oui, oui. Ah oui, il y a pas de là-dessus, comment dire ça. Il y a tout un tas de choses dans l'interface en tant qu'elle-même, en tant qu'outil, qui sont intéressantes. Hein. Et le fait de rédiger un projet maîtrisé, le fait de rédiger un projet motivé, si les conditions sont là pour que le jeune puisse vraiment prendre le temps de l'écrire, qu'on puisse l'aider, relire, l'aider à s'exprimer, parce que souvent la difficulté c'est ça, c'est d'avoir ce dialogue pour que ça vienne vraiment de lui et qu'il puisse exprimer ses idées, ses envies, ses objectifs.
Oui, puis de sortir des phrases types, parce que je vois bien par exemple quand je reçois des candidatures de stage, très souvent on voit bien que choses, à la fois. Donc, c'est du copier-coller et on n'ose pas forcément dire
nous,
vraiment ce
que nous interrogeons, c'est le temps qui est donné, et je redis, cet espace qui n'est pas forcément que l'espace de la maison, ni l'espace de l'établissement scolaire. Et c'est pour la raison pour laquelle nous, on tient au centre d'information et d'orientation. Après, monsieur Teilhard parle qu'il n'y a plus de hiérarchisation. Sauf qu'il y a une nouveauté quand même, vous n'en parlez pas, mais il y a une nouveauté dans Parcoursup où il y aura une phase répondeur automatique où les jeunes peuvent confirmer des vœux hiérarchisés pour qu'il y ait une réponse automatique. Quoi, voilà, il y a des nouveautés. Ah oui, je vous vois froncer les sourcils. Bah, vous n'avez pas tout découvert encore. Il y a des nouveautés dans Parcoursup qui vont en phase finale. Qui sont là pour vous aider, par contre. Hein. On va dire qu'elles sont là pour vous aider.
Je pense qu'il faut remettre les choses en perspective.
Mais j'ai
pas
terminé.
Si l'on crée juste en deux secondes, pour répondre sur ce point-là, si c'est pour aider, c'est pour ceux qui ne veulent pas consulter tous les jours la plateforme, parce qu'ils nous l'ont dit l'an dernier, et nous avons répondu à cette demande en permettant à un candidat qui sait ce qu'il veut, qui part pendant une semaine en vacances, eh bien, il l'ordonne ses voeux dans le choix qui est le sien, et la réponse sera apportée automatiquement par la plateforme lorsque la formation qui lui plaît, elle lui formule une proposition.
D'accord, il n'y aura pas besoin de regarder tous les jours.
Mais voilà, je voulais préciser une chose. En fait, un outil n'est jamais neutre. un outil, il est toujours quand même, voilà, il a été créé avec des fins. La question, c'est est-ce que cet outil Parcoursup, il est vraiment créé pour les élèves et les familles? Est-ce qu'il est vraiment créé pour les établissements supérieurs? Ou est-ce qu'il est créé pour gérer quelque chose, un problème qu'a le ministère de l'Enseignement Sup et le ministère de l'Éducation nationale? C'est la question qu'on pose. Et je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse du fait que ce samedi, il y avait des enseignants par milliers, des familles, des jeunes qui étaient dans la rue pour dire non à Parcoursup et non à la réforme du lycée. On ne peut pas faire comme si cet outil était complètement neutre. Voilà, je tenais à le dire.
Inès Bétaïeb.
Alors pour aller un petit peu dans le même sens, je pense que moi, donc qui travaille au lycée Simone de Beauvoir à Garges-et-Gonesse, et nous, parce que je parle aussi pour mes collègues, nous avons aussi certaines inquiétudes qui sont liées à, par exemple, l'abandon de l'éducation prioritaire en lycée, mais ça c'est depuis quelques années déjà, la réforme du bac qui va accroître la compétition entre les établissements, et puis Parcoursup qui arrive sur tout ça. Ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que, donc je reviens un petit peu sur ce que disait notre collègue, c'est qu'il parlait de motivation et de volonté personnelle. Mais je crois que quand on parle d'éducation, on ne peut pas parler qu'à l'échelle individuelle. Il y a aussi des établissements qui ne sont pas tous les mêmes partout. Et en fait, justement, parce que c'est un outil qui est le même pour tous, mais qui va broyer un petit peu dans la même machine des personnes qui sont très différentes, je trouve que c'est un outil qui est très inégalitaire. Et par ailleurs, ça c'est un autre point sur lequel je voulais revenir, sur la question du choix. On disait, une personne de cet âge-là, c'est ce qu'il veut, etc., il va faire des choix. Mais je trouve aussi que ce qui est problématique, et c'est ce qui est très anxiogène, c'est qu'on demande aux jeunes de faire des choix à un âge de plus en plus jeune. Notamment parce qu'avec la réforme qui arrive, on est un peu à bac moins 3, bac plus 3. Les élèves vont choisir des espèces de parcours qui vont les préparer à l'université. Dès la fin de la seconde, ils vont devoir choisir des matières qui vont les préparer à ce qu'ils veulent éventuellement faire après le bac. Et donc, ce qui est hyper anxiogène, mais là, je parle aussi un petit peu de l'avenir, c'est que on demande à des jeunes de faire des choix qu'ils ne peuvent pas faire puisqu'ils sont dans le temps de la découverte à 16-17 ans. Et on leur demande déjà d'être dans le temps adulte. Et je trouve que ça, c'est très anxiogène.
Alors, Véronique Damour et ensuite Jérôme Teilhard. Véronique Damour.
Oui, moi, deux petites réponses à ce qui vient d'être dit, et ici et un petit peu avant. Est-ce que, franchement, un choix précoce pour nos élèves de terminale en termes d'orientation à 17-18 ans, oui, sûrement, mais il faut peut-être aussi les rassurer et savoir leur dire que ce n'est qu'un premier choix. C'est pas forcément un choix déterminant pour le reste de la vie. Beaucoup de nos élèves demandent une inscription en BTS, IUT, autrement dit bac plus 2. Et bien souvent, ce bac plus 2 est en quelque sorte la préphase d'études qui peuvent être très différentes après, soit dans l'alternance, soit dans l'enseignement supérieur, à découvrir de nouvelles potentialités auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé en classe de terminale. Par ailleurs, quand vous me dites que c'est super compliqué, c'est super anxiogène, moi je veux tout simplement remarquer, bon je sais, je vais faire un petit peu dinosaure encore une fois, mais j'ai pratiqué APB durant tout son déroulement. Je découvre Parcoursup depuis 2 ans. Quand on regarde l'interface d'APB telle qu'elle est présentée pour la saisie enseignant, pour la saisie du chef d'établissement, ça n'a pratiquement pas varié avec la configuration informatique d'APB. Parcoursup n'est pas très nouveau par rapport à APB. Ce qui est nouveau, et là, c'est un bien, c'est la transparence dans la proposition des attendus de formation, c'est la transparence dans le rendu de la réponse au mois de mai, parce que n'oublions pas que lorsque APB rendait sa réponse, on ne savait pas pourquoi, comment APB rendait telle réponse. Ouais. Le processus était totalement opaque, alors que là, on a un regard sur l'évolution de la situation de nos élèves, et on peut les adapter en temps et en heure. Donc,
et Véronique Damour, pardonnez-moi, je vous coupe, juste pour laisser à Jérôme Teilhard le temps d'intervenir, et ce sera la fin de l'émission. Jérôme Teilhard.
Moi, je crois, il y a une angoisse qu'on oublie, c'était celle de ceux qui échouent en licence parce qu'ils sont arrivés dans une université sans savoir pourquoi et comment. Et ça, c'est celle à laquelle on veut répondre. Parce que l'objectif aussi de Parcoursup, c'est de résoudre ce problème d'échec en licence qui est massif dans notre pays et qui est un échec individuel et collectif.
Et deuxième chose, c'est encore un peu tôt de juger de l'efficacité.
Mais ce que je veux dire, c'est bien ça qui nous a motivés à changer de système. Deuxième élément, c'est pas un outil neutre. c'est pas un outil neutre parce qu'on a fait le choix de mettre fin au tirage au sort, parce qu'on a fait le choix de promouvoir les lycéens qui sont boursiers, de promouvoir la mobilité. Donc oui, il n'y a pas de neutralité. Il y a véritablement un choix, c'est celui de promouvoir à la fois l'orientation et l'accompagnement à l'orientation et de la réussite dans le cycle de licence.
Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Jérôme Teilhard, Véronique Damour, Inès Bétaïeb et Sylvie Amissi. Discussion que vous pourrez retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Là, il n'y a pas de délai, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire avant mercredi soir. C'est illimité la réécoute, tout comme le téléchargement des podcasts. Vous pouvez également nous écrire et vous pouvez, bah, avec moi, remercier l'équipe du Grain. Tiens, par exemple, Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Le Duo, Antoine Dulster, Cyril Marchand. Émission réalisée par Peyré Legras avec la prise de son Anthony Thomasson.